Des informations obtenues par le 98.5, Jérémy, il semble que la vente possible des Alouettes à l'homme d'affaires montréalais, Vincent Goudzou, ne serait pas si imminente, ne serait pas aussi rapide qu'on le pense.
Oui, ben en fait, la semaine dernière, on vous informait, là, suite à cette information véhiculée par Tony Marinaro de TSN Radio, qui indiquait que le commissaire Randy Ambrosi avait rencontré en personne Vincent Gouzeau, mais aussi Danny Machocha, qui l'accompagnait, et qu'on lui avait ni plus ni moins dit que s'il voulait l'équipe, ben c'était à lui. Il avait fait une proposition et tout cela, avait expliqué son plan d'affaires financier, son plan football aussi. Mais, bon, dans les dernières heures, il y a eu un revirement de situation. Il y a un aspect important de la proposition de Vincent Goudzou qui a été retiré de la table. Pourquoi exactement, on n'est pas certain, mais bon, après réflexion, parce qu'on sait que Vincent Goudzou fait ses études, on lui a livré les livres de l'équipe, donc clairement, à un moment donné, il a pris une décision, il est revenu en arrière sur une des clauses qu'il avait proposées à la Ligue canadienne de football, et justement, cet aspect-là, ben, il est garanti par un des deux autres groupes qui est toujours en liste, notamment celui d'Éric Lapointe, qui est toujours là et qui espère toujours faire l'acquisition des Alouettes de Montréal. Donc, la course s'est resserrée. Dans le monde des affaires, dans le monde du sport, c'est souvent comme ça, Paul. Une petite chose peut faire tout dérailler, même si on est près d'une entente. Alors, le tout est relancé. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours l'intention d'annoncer la vente de l'équipe avant le premier match de la saison régulière qui s'en vient dans quoi? Trois semaines approximativement.
Donc, c'est le 14 juin. Mais c'est ça, j'en viens pas. Exact. C'est le 14 juin, le vendredi 14 juin. Les Alouettes ouvrent leur saison à Edmonton. Et rien, il y a pas un pire moment pour devenir propriétaire d'une équipe alors qu'il ne reste que trois semaines avant le premier match.
Écoute, puis on continue de prendre des décisions importantes. Il y a quelques jours, on a libéré Ernest Jackson. Peut-être que la nouvelle direction arrive en place et dit « Nous, Ernest Jackson, on veut le garder. » Donc, l'équipe continue d'opérer. On ne sait pas qui sera encore en place et ce sera difficile pour les nouveaux propriétaires d'arriver là la veille du jour d'ouverture, du match d'ouverture, puis de dire « Bon, ben on a un nouvel entraîneur, on a un nouveau directeur général. Le cahier de livres que vous avez pratiqué pendant un mois au camp d'entraînement, jetez ça aux poubelles, on recommence à zéro. » Ça serait pratiquement impossible à faire. Donc, t'as absolument raison quand tu parles d'un timing difficile. Je comprends que la Ligue canadienne était aux prises avec une convention collective qu'on avait à renégocier, mais on aurait dû régler la vente des Alouettes au mois de janvier, alors qu'on avait tout l'hiver pour régler ça plutôt que d'arriver à quelques jours du début de la saison. Et là, présentement, ben, on a une course à trois chevals, comme on dit, et c'est reparti de plus belle.
Match numéro 5 au basket ce soir de la série entre les Raptors et les Bucks. Série égale, deux victoires de chaque côté. Est-ce que la présence de Drake va être tolérée ce soir?
Ben, écoute, on disait au début des séries que Drake était le porte-malheur des Raptors parce qu'à chaque fois qu'il était là, les Raptors perdaient. Mais là, il y en a qui commencent à trouver que ça déborde, là. Ça dépasse les limites parce que Drake, il est pas seulement installé dans son siège. Écoute, il s'installe littéralement sur le banc des Raptors. Il parle aux joueurs. Il parle même à l'entraîneur. Il lui fait des massages pendant qu'il y a des temps d'arrêt. Écoute, Paul, à un moment donné, il y a des limites. Là. Même Jack Nicholson se retenait un petit peu à l'époque où il allait voir les matchs des Lakers.
Oui.
Il rouspétait, puis il criait, puis il encourageait, puis il essayait de distraire les joueurs de l'autre équipe. Mais en même temps, il laissait quand même l'entraîneur des Lakers faire son travail. Dans ce cas-ci, ça devient vraiment un peu ridicule de voir Drake sur le banc. Et les Bucks se sont plaints un peu de sa présence. Et je pense que jusqu'à un certain niveau, ça fait du sens aussi que, tu sais, prends ta place, puis
ben oui.
Laisse le coach
là,
au moins coacher.
Oui, prends ton billet de courtoisie et assis-toi comme Jack Nicholson le faisait, comme tu dis, sur le
Exactement.
Bord du terrain des Lakers. DJ Smith est devenu le nouvel entraîneur-chef des Sénateurs, donc ça met fin à toutes ces rumeurs entourant Patrick Roy.
Écoute, DJ Smith, c'est un gars qualifié, assistant entraîneur avec les Maple Leafs de Toronto dans les dernières années. Coupe Memorial, il y a de cela quelques années aussi. Donc, quatre saisons passées aux côtés de Mike Babcock. Sauf que, on s'entend, à Ottawa ce matin, il y a quand même un sentiment de déception parce que lors des 48 dernières heures, jamais dans l'année 2019, on avait autant parlé des Sénateurs. Pourquoi? Parce qu'on parlait de cette rumeur et de cette rencontre entre les Sénateurs et Patrick Roy. Et là, on se retrouve avec DJ Smith. Je veux rien enlever à DJ Smith, mais pour un marché qui a besoin d'être excité, qui a pas beaucoup de joueurs, bons joueurs à se mettre sous la dent parce qu'on est en reconstruction, disons qu'à ce niveau-là, on repassera. Et là, ben, il y en a plusieurs qui commencent à dire, est-ce qu'on n'a pas rencontré Patrick Roy juste pour, entre guillemets, montrer qu'on a fait notre travail, qu'on a fait nos devoirs, mais que dans le fond, parce que DJ Smith, on l'avait rencontré au début du processus et depuis ce temps-là, on n'avait plus entendu parler. Donc, pourquoi rencontrer Patrick Roy alors que, il semble-t-il, on avait déjà trouvé notre homme assez particulier. Je peux comprendre des sénateurs, des les partisans des sénateurs qui, ce matin, ont peut-être avalé un peu leur café de travers.
Le Canada est passé en demi-finale au championnat du monde de hockey en Slovaquie, mais de quelle façon il faut que tu nous racontes ça?
Ouais. Ben écoute, c'était 2-1. La Suisse a battu l'année dernière le Canada, les éliminés du championnat mondial. Et là, ils avaient la chance de le faire encore une fois. Et c'était 2-1 pour la Suisse et avec 0.4 secondes à faire. Le Canada a marqué pour créer l'égalité. C'est Damon Severson qui a marqué son premier but du tournoi pour faire 2-2. Et donc, ça lançait ce match-là en prolongation. Et une fois rendu en prolongation, ben écoute, à 3-3, Paul, sur une surface olympique, tu peux t'imaginer qui avait l'avantage. Bien sûr, c'était le Canada et ça n'a pas pris bien, bien longtemps. Mark Stone a enfilé l'aiguille pour donner la victoire au Canada qui se sauve de là avec une victoire in extremis. Mais t'aurais dû voir le visage des joueurs suisses.
Ah, oh, c'est incroyable. J'ai vu la fin du match. 0,4 ouais. secondes, c'est moins d'une seconde. Et parmi les
puis
marqueurs...
Puis le pire...
Ouais.
Ouais, Mark Stone, 2 buts, une passe, bien sûr, mais ça a pris à peu près 10 minutes pour qu'on en arrive à la conclusion que oui, le but était bel et bien bon et qu'il restait 0,4 secondes. Donc, on a gardé le suspense pendant un bon petit bout de temps. Là.
Non, j'allais dire que le premier but des Suisses a été marqué par un ancien Canadien, Sven Andrighetto.
Oui. Oui, absolument. Tu as raison de le mentionner.
Et on va terminer rapidement avec les essais libres ce matin à Monaco. Parce que Monaco diffère des autres Grands Prix de Formule 1. Les essais ont lieu le jeudi et demain, c'est jour de congé.
Exactement. Donc, ce sont les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui ont été les plus rapides en essais libres ce matin. Sébastien Vettel sur Ferrari a terminé 3e, malheureusement pour Lance Stroll, 18e. Donc, ça n'a pas été sa journée. Là.
On se reparle dans une heure. Merci, Jérémy.
Salut.